16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, sans aucune contrainte, sans frontières, sans virus, rien, juste pour le plaisir de rêver, de s'évader. Après 17h, je vous emmènerai dans un pays qui n'est pas si loin, mais qui nous emmène très très loin, le Maroc, aux portes du Sahara. Et puis là, tout de suite, vous le savez, nous sommes en Normandie, et j'ai le grand plaisir d'avoir en ligne un Normand de cœur, de sang, le philosophe et enfant du pays, Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Vous êtes né à Chambois, près d'Argentan, si mes infos sont bonnes. Vous vivez à Caen. Beaucoup de vos livres sont empreints de la Normandie et de votre enfance en Normandie, notamment le chemin de la Garenne, qui est un chemin qui, je crois, passe le long de votre village natal. Vous êtes aussi attaché que ça à la Normandie ?
Oui, qu'est-ce que c'est que cette expression aussi attachée que ça? Oui. Onfray, ça veut dire donner la paix. C'est originaire du Danemark. Il y a Onfroy, le Danois, qui est propriétaire d'Argentan au Xe siècle. Donc vous voyez, ça fait 10 siècles que je suis normand et avec une origine viking, très précisément.
Ah oui, donc vous êtes un vrai normand viking, comme ceux qu'on apprend à l'école?
Oui, absolument, avec des casques, avec des
avec
cornes
des pointes
de vache et je bois de la bière dans le crâne de mes ennemis.
On n'en doutait pas un seul instant. Hein.
Ben oui, et je bois beaucoup.
Alors, vous êtes né en Normandie, vous vivez en Normandie, vous mourrez en Normandie ?
Oui, j'espère bien que je serai aussi enterré en Normandie, j'ai prévu. Et il y a une espèce de fidélité comme ça qui fait que je ne m'imagine pas ailleurs. Donc je ne m'imagine pas vivre, travailler. Je ne m'imagine pas non plus ni mourir, ni être enterré dans un autre endroit que cette terre de Normandie.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Il y a une espèce de viscéralité qui fait que, bon, après tout, quand vous êtes mort, et si vous êtes mort, je ne sais pas, dans n'importe quel endroit du monde, vous me direz à quoi bon être... voilà, mais c'est l'idée qu'on se fait de soi une fois mort, qui est une idée ridicule de toute façon, mais qui fait qu'on a envie d'être dans son cimetière natal, enfin le cimetière de son village natal, parce qu'on a l'impression que l'éternité c'est long et autant la passer dans un endroit qui nous est agréable. Et j'aime les cimetières de... parce que Chambois est associé à un autre petit village à côté qui s'appelle Fel. J'aime les deux cimetières de ces deux villages, même s'il y en a un qui aujourd'hui est à côté, un cimetière qui est à côté de quelques pavillons, c'est pas très sympathique, mais un autre qui est vraiment en plein milieu de la campagne, et c'est là qu'on a envie de passer son éternité.
Mmh. Alors, expliquez-moi ce que c'est exactement qu'être normand, parce que moi j'ai deux images en tête. Il y a les Vikings, effectivement, qu'on apprenait à l'école, avec ces Normands, hein, les Northmen, les hommes du Nord,
qui remontent
la Seine, qui font des raids et qui s'installent le long de la Seine. Et puis moi, l'autre image que j'ai toute bête en tête, c'est le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, qu'on dit. Et c'est pas très raccord avec les Vikings. Alors, c'est qui le Normand au milieu de tout ça?
Pas du tout, au contraire, c'est très raccord, parce que peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est quand il y a un litige, on dit, on va en discuter, et quand on aura discuté, qu'on aura décidé le pour, du contre, etc., on va trancher, et quand on aura tranché, on se tiendra à ce qu'on aura tranché. Alors évidemment, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est devenu ni oui ni non, oui et non en même temps, mais c'est très exactement le contraire. Il y avait ce qu'on appelait un droit à la chicane, et c'est du droit normand, ça, et le droit à la chicane, c'est la possibilité, justement, de dire, examinons la totalité des possibles. C'est-à-dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça dépend des circonstances, des occasions. Et puis quand on aura vraiment tout décidé, à un moment donné, on va trancher et on s'y tiendra. Donc non, au contraire, la Normandie est une terre de décision franche, virile et capitale.
Ah oui, vous voulez dire que le Viking était un fin diplomate ?
Alors, le Viking, c'est le contraire de ce qu'on dit habituellement, parce qu'il y a effectivement une espèce de caricature du Viking, et la plupart du temps, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, comme vous le savez, et comme les Vikings n'ont pas gagné au sens classique du terme, ce sont plutôt les chrétiens qui ont gagné et qui font une histoire dans laquelle ils intègrent les Vikings, et les Vikings seraient des méchants, sanguinaires, etc., etc. Pas du tout, ce sont d'abord des commerçants, ce sont des gens qui, en fonction du climat, descendent du nord où il fait très froid, où il y a de la neige, de la glace, etc., et on peut pas vivre, parce qu'on peut pas avoir des cultures, donc ils descendent là où ils peuvent trouver de quoi se nourrir et puis ils s'installent et ils font du commerce. Alors de temps en temps, effectivement, ils rentrent dans des abbayes, ils volent de l'or, des pierres précieuses, mais la plupart du temps, ils s'installent, ils font des mariages mixtes, on dirait aujourd'hui, et ils font du commerce et ils disparaissent dans la nature, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent tout à fait, ils n'ont pas du tout le sens de l'identité, etc. Mais en même temps, ils ont inventé, enfin, tout ce qui est scandinave, tout ce qui est nordique, tout ce qui est islandais, par exemple, allez voir du côté des sagas islandaises, bien vous verrez qu'il y a une invention de la démocratie et que c'est l'une des premières inventions de la démocratie, que quelque chose a à voir entre la démocratie et justement la chicane, parce que la chicane, c'est la possibilité de disserter sur le droit pour se dire que ben, finalement, il y a quelque chose qu'on aura décidé tous ensemble, je dirais de manière démocratique. Et ça reste quelque chose qui compte en Normandie. On a toujours envie d'exprimer son droit à la chicane. Et c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux, hein, parce qu'il y a pas forcément le désir de faire une communauté. Autant les Corses font une communauté, les Bretons font une communauté, les Alsaciens font une communauté, mais vous me direz en même temps qu'ils ont une langue. Les Normands, vous avez Haute et Basse Normandie, même si elles sont réunifiées depuis quelques temps. Et puis après, vous avez la Normandie, vous l'avez bien dit tout à l'heure, la Normandie de la mer et la Normandie de la terre. Et puis après, vous avez la Normandie des riches et la Normandie des pauvres. Et puis aujourd'hui, vous avez la Normandie des Parisiens. Ça peut être le Perche, ça peut être Deauville, par exemple, ou Honfleur. Mais ça peut être aussi la Normandie des pauvres ou des gens modestes. Vous avez parlé tout à l'heure du Pays d'Auge. Il n'y a pas de grosse fortune dans le Pays d'Auge. Et c'est très, très diversifié, très, très divers. Et ça reste quand même une terre d'individus.
Nathalie ?
Oui, il y a aussi une vertu viking, hein, pour en revenir à eux, c'est le courage.
Oui, vous avez raison. C'est pas forcément un courage vainqueur et guerrier. Ce sont pas des gens qui poussent des cris en disant qu'ils sont courageux. Mais par exemple, moi j'ai un ami qui est médecin, qui n'est pas originaire de Normandie, qui me disait mais je n'ai jamais vu de gens autant courageux. Il me dit dans les campagnes, les gens appellent le médecin quand ils sont au bord de la mort.
Ah oui.
Et ils sont par exemple à l'endroit de la souffrance. Dans une relation singulière. Mon dentiste aussi qui me dit, voilà, il a vu un jour quelqu'un arriver, il lui a dit, ah, vous savez, il va falloir vous refaire les dents, il va falloir une opération, on va faire des anesthésies. Il lui a dit, mais vous m'arrachez toutes les dents tout de suite sans anesthésie.
Ah bon? Vous faites un portrait des Normands absolument silencieux. Stupéfiant.
Non, mais il y a un courage chez les Normands, on ne se plaint pas. On ne dit pas qu'on souffre quand on souffre. Et puis, il faut vraiment souffrir beaucoup pour dire qu'on souffre vraiment.
Michel Onfray, vous restez avec nous. On continue à explorer votre Normandie. À tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tout à l'heure, après le flash de 17h, nous irons au Maroc. Pour l'instant, nous explorons la Normandie avec un guide exceptionnel, Michel Onfray, qui est en ligne avec nous. Michel Onfray, si vous nous indiquez un ou deux petits endroits à vous que vous adorez en Normandie.
Oh, je ne vais pas être très objectif parce que c'est Chambois, mon village natal, et c'est, vous en avez gentiment parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le chemin de la Garenne, qui est un chemin qu'on fait en partant de Chambois, on fait un petit tour dans la forêt, une petite forêt, et puis on revient par le village dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Fel, et on a un tour du monde poétique et sociologique. Vous avez aussi parlé de Marcel Proust, et de fait, c'est l'occasion de faire un tour proustien. Moi, j'ai 61 ans maintenant, donc j'ai connu plein de commerces qui ont disparu, des gens bien sûr qui sont morts, mais il y a pour moi un endroit magnifique qui est le centre de mon jardin la nuit quand tout est éteint. C'est l'endroit le plus beau du monde pour voir la Voie lactée. On a l'impression qu'il suffit de tendre le bras pour décrocher les étoiles.
Mais le ciel n'est pas souvent clair en Normandie.
Si, qu'est-ce que vous imaginez là? Chambois est un village de 500 habitants, il n'y a pas de pollution visuelle. Oui. Et donc, quand tout est éteint, on a un éclairage public qui s'éteint vers 11h minuit. Dans ce village, eh bien, là, vous avez vraiment l'impression d'être au centre du cosmos, quoi. Il y a quelque chose d'assez magique là.
Je parlais de la météo, évidemment, de la réputation, parfois excessive, de la Normandie.
Alors bon, vous savez, on a un réchauffement climatique qui est visible aussi en Normandie. On le voit bien d'ailleurs. Il y a eu une époque où on avait des difficultés à faire du maïs et il fallait beaucoup arroser le maïs. Aujourd'hui, on fait du maïs sans difficulté. Ça change considérablement. On voit qu'on peut faire du vin. Il y a par exemple à Saint-Pierre-sur-Dive, un ancien notaire qui s'est reconverti et qui fait un très bon vin blanc et rouge, par exemple. Donc vous voyez, par exemple, les limites de la viticulture se déplace vers le nord, donc ça change considérablement. Et puis on a perdu, donc il fait vraiment très chaud l'été, mais on a perdu en même temps les hivers rigoureux qui faisaient qu'on avait 50 cm de neige, par exemple, et qu'on pouvait faire des bonhommes de neige. Ça fait des années que ça n'est plus possible.
Ouais. Et quel est votre plus grand souvenir gastronomique en Normandie?
Alors écoutez, il y a deux choses. Mon père était ouvrier agricole et avait un petit jardin potager, un jardin ouvrier. Et mon plus beau souvenir, c'était une fraise mangée dans ce jardin. Mon père faisait son jardin le soir, par exemple, après sa journée de travail. Et puis, il y avait des œillets de poète, par exemple, qui sont mes fleurs préférées. Et puis, les fraises, mon père me disait, va passer ça sous l'eau, comme il me disait. J'étais gorgé de toute la chaleur de la journée. Je passais ça sous un robinet d'eau glacée. C'était vraiment une eau de source. Et il y avait quelque chose de magique à mettre la fraise dans sa bouche parce qu'elle était très fraîche sur le pourtour et la périphérie. Puis quand on écrasait ça sous sa langue et son palais, et d'un seul coup, il y avait un jus très chaud qui dégoulinait dans le corps et on était d'un seul coup tout entier une fraise. Donc ça, évidemment, c'est le souvenir proustien, c'est le souvenir naturel, je dirais. Et le souvenir culturel, c'était mon ami Michel Bruno qui a eu un restaurant extraordinaire qui s'appelait La Bourride. C'était un fou au sens génial du terme et qui était capable de faire des choses extravagantes. Il faisait par exemple un gâteau café whisky tabac.
Ouais.
Donc il a déjà envoyé quelqu'un à l'époque. Il avait envoyé quelqu'un à l'hôpital, mais c'était quelque chose de très viril.
Ouais.
Il y avait le whisky qui rappelait effectivement le et tout ce qui est nord, quoi, tout ce qui est pays nordique, les tourbes. Il y avait le tabac qui renvoie à Dieppe, par exemple, ou Honfleur, qui étaient des ports où les gens sont allés découvrir le monde, par exemple.
Mais le tabac, il y avait du tabac dans le gâteau?
Oui, des feuilles de tabac.
Ça se mange?
Bien sûr, on pouvait infuser du tabac.
Oui. Absolument, on infuse du tabac. Alors évidemment, on avait là-dedans de l'alcool, de la caféine,
café, whisky, tabac.
Donc l'alcool et tabac, voilà. Donc on avait tout ça mélangé. Ça, c'était un truc de fou, mais il était capable de cuire des foie gras sur des brassées, par exemple, de lavande. Enfin, il faisait des choses extravagantes, ou alors des choses très normandes pour le coup, une espèce de carpaccio de moule, de coq et de bulot.
Mm-hmm.
Mais il ajoutait également, comment appelle-t-on ces coquillages qui sont des coquillages un peu rares et précieux qu'adorent les Japonais. D'un seul coup, j'ai un trou.
Les ormeaux.
Ah oui, les ormeaux.
Et il coupait tout ça vraiment. Alors, il faut d'abord donner des coups de marteau là-dessus pour que la chair se détende. Et il avait escalopé tout ça finement. Et on avait vraiment l'impression d'avaler la Manche. Vous avez parlé tout à l'heure de la Manche et on peut confondre parce que la Manche, c'est le département, mais c'est aussi la mer. Et ça, c'était une nourriture extraordinaire parce qu'elle était très, très normande pour le coup.
Je vous parlais avec tellement d'amour, de passion et de profondeur de la Normandie. Qu'est-ce qui est normand en vous? Quelle partie de votre caractère a forgé la Normandie?
Je pense que ça fabrique des individus solitaires rebelles.
Ah oui?
Vous avez parlé tout à l'heure de quelques écrivains. Quand vous prenez Maupassant, Flaubert, mais vous ajoutez Tocqueville, par exemple, ou Georges Sorel. Roland Barthes est né à Cherbourg. André Breton est né à Tingebray.
Barbé d'Aurevilly,
vous avez bien raison, bien sûr, ou Octave Mirbeau. Et ils ont tous en commun d'avoir été des subjectivités impossibles, ou Alain, le philosophe Alain, des subjectivités impossibles à contenir. Ce sont des individus rebelles à qui on ne peut pas leur raconter, quoi. Ce sont des gens qui, dans leur diversité, vous parliez de Barbé, il était très catholique, je parlais de Mirbeau, il était très anticatholique et anticlérical. Vous avez Tocqueville qui était plutôt à droite, vous avez Sorel qui était plutôt à l'extrême gauche. Mais ce qui rassemble tous ces individus-là, c'est effectivement un goût de la liberté, de la subjectivité. On creuse son sillon et on n'a que faire de ce que disent les autres.
Ouais. Et votre père, dont vous parlez beaucoup aussi, quelle leçon ce père normand de la vie vous a-t-il donné, dont vous vous servez encore aujourd'hui?
Vous savez, mon père, c'était un contemporain de Virgile, c'est-à-dire qu'il a commencé son existence, il a commencé à labourer avec les chevaux, il avait 13 ou 14 ans, et en fait, il connaissait la nature comme Virgile connaissait la nature en son temps, qui était un poète romain. Et puis après la guerre, il a connu les tracteurs, donc ça a considérablement changé. Mais ce que mon père m'a appris, c'est justement le sens de la nature, c'est-à-dire le sens du jour et de la nuit, le sens des saisons, le sens de la permanence, de l'identité,
de la durée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le sens du jour et de la nuit, par exemple ?
Et bien, par exemple, vous comprenez que le jour succède à la nuit, qui succède au jour, qui succède à la nuit, etc. Et vous intégrez votre existence dans ce schéma-là, et vous ne vous prenez pas pour le centre du monde, parce que vous savez que vous avez des ancêtres, et que vous aurez peut-être des descendants, et que vous aussi, vous êtes une journée dans une année, et votre vie n'est jamais que ça. Vous réveillez, vous passez la journée, vous vous endormez, et la vie est passée, vous avez vécu, je sais pas, 70, 80, 90 ans. Et donc, c'est le sens de la nature, du cosmos, plus que de la nature. Et ça, je pense que quand on est un vrai paysan, et bien, un paysan pour le coup, il n'y a pas vrai ou de faux paysan, les faux paysans ne sont pas des paysans, mais quand on est un paysan, on a le sens de ça, du rythme, du cosmos, de la place qu'on prend dans le cosmos. Et il y a une espèce de modestie, de soumission au destin. On sait bien qu'on change pas les choses, on sait bien que le réel c'est comme ça, quoi. Donc d'où l'intérêt de regarder le ciel et le cosmos. On sait bien qu'on est un petit point dans l'univers, qu'on va pas durer longtemps, et qu'il vaut mieux être quelqu'un de droit et de debout pendant ce temps-là.
Michel Onfray, on adore vous entendre parler de la Normandie. On resterait avec vous des heures. Hein.
C'est gentil. Si vous me permettez, je voudrais dire qu'il y a un très grand Normand dont on parle assez peu et qui a beaucoup et bien écrit sur la Normandie, c'est Léopold Sédar Senghor.
Oui.
Et qui est donc un Sénégalais noir, comme chacun sait, et qui a écrit sur la Normanditude un très beau texte, parce que moi je pense qu'un Normand, c'est pas quelqu'un qui a des quartiers de noblesse en disant « ça fait 10 siècles que je suis en Normandie, j'ai le droit de me dire Normand ». Pour moi, un Normand, quiconque aime la Normandie, y vit et y travaille. Mmh. Donc après, on se moque des couleurs de peau, des religions ou quoi que ce soit. C'est une passion pour un lieu, c'est une passion pour des ciels. Vous avez parlé tout à l'heure de l'impressionnisme un peu. Eh bien, l'impressionnisme est né en Normandie, et c'est pas par hasard. Il y a eu Eugène Boudin, qui est un compatriote de Satie, par exemple, dont vous avez aussi parlé. Et je pense que la lumière normande a rendu possible l'impressionnisme, qui lui-même a rendu possible un autre personnage qui est Duchamp, et Marcel Duchamp est originaire de Rouen. Et il n'y a pas eu d'art contemporain sans la fameuse fontaine, sans la fameuse pissotière de Marcel Duchamp, qui était originaire de Rouen. C'est une terre riche en révolution, en révolution silencieuse.
Vous m'avez convaincu que la Normandie est le centre du monde.
Mais oui, bien sûr, j'espère bien.
Merci beaucoup Michel Onfray de nous avoir raconté votre Normandie, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de la revue politique trimestrielle Front Populaire, qui a été lancée le 23 juin, que l'on trouve en kiosque, en librairie et sur, bien sûr, le site internet Front Populaire, qui apparemment est un gros succès, puisque vous en seriez à 75 000 exemplaires vendus, ce qui est quand même pas mal.
Merci. Ouais, on est au-delà. Mais c'est déjà très bien.
Merci beaucoup Michel Onfray.
Je vous en prie, c'est moi. Merci, au revoir.